France Culture.
Le principe de laïcité, il ne s'agit en effet pas d'une valeur, mais d'un principe, est énoncé par l'article 2 de la Constitution de la Ve République. La séparation des églises et de l'État est par ailleurs organisée par la célèbre loi du 9 décembre 1905, une loi qui énonce des principes fondamentaux de la République et fait donc partie à ce titre, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, du bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'elle a valeur constitutionnelle. Tout ceci n'empêche pas ce principe de s'avérer à géométrie variable, tout le territoire de la République, pourtant déclaré indivisible, n'étant pas concerné. Cela n'empêche pas davantage ce principe d'être instrumentalisé, y compris en allant jusqu'à le tordre dans le sens contraire de ce qu'il énonce. Ainsi, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est au nom de la laïcité que des responsables politiques et administratifs, et souvent même des ministres, premiers ministres ou présidents de la République, ont mis en place un véritable gouvernement de l'islam. C'est pour saisir ce paradoxe et la manière dont il s'est traduit dans l'espace public comme dans des politiques publiques que le politiste Franck Frégosi a mené une enquête. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Et c'est un architecte, Fawzi Chaoui Bougren, qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Un architecte qui a travaillé à construire des centres culturels et cultuels, c'est-à-dire des mosquées, dans le sud de la France en particulier. Il reviendra sur cette expérience professionnelle, cette contribution de la culture à la représentation et à l'existence de l'islam en France. Et puis, dans la rubrique actualité, on parlera de frontières et de lisières, et on parlera aussi de la situation américaine, et notamment d'Elon Musk et de Donald Trump. Ce sera à propos du numéro 97, le dernier numéro de la revue Multitude, et c'est Alain Deneville qui nous rejoindra. Bonjour Franck Frégosi.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous enseignez à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et vous faites paraître aux éditions du Seuil ces jours-ci « Gouverner l'islam en France ». Vous partez de ce paradoxe par lequel j'ouvrais cette émission. On pourrait s'attendre, en effet, dans une république laïque, à ce que le gouvernement d'une religion ne soit pas l'affaire des autorités publiques et de l'État. Or, si on regarde ce qui se passe depuis fort longtemps maintenant, à la fois dans la période coloniale et puis très récemment, avec des accélérations, des changements depuis une vingtaine d'années, sur lesquels vous vous arrêtez particulièrement, on s'aperçoit en fait qu'il y a une véritable politique de l'islam, un véritable gouvernement, pour reprendre votre terme, de l'islam.
Oui. Je dirais même à travers cet exemple de l'islam en France, on voit bien comment la religion est demeurée une sacrée affaire d'État. C'est-à-dire à la fois vis-à-vis d'un État qui se réclame de la laïcité, et nul ne conteste ce principe-là, et vous avez rappelé les fondements juridiques, mais force de constater que dans la pratique et dans la longue durée, vis-à-vis de cultes minoritaires et notamment de l'islam, force est de constater que cette laïcité est à géométrie variable, pour reprendre votre terme, et qu'on constate plutôt une velléité d'intervention de l'État s'agissant de fixer le cadre dans lequel l'islam devrait être organisé, s'agissant parfois de limiter la visibilité urbaine de l'islam avec les fameuses lois sur le voile, et s'agissant aussi, on le voit à l'heure actuelle avec le nouveau ministre, des velléités peut-être d'intervenir dans quelles seraient les doctrines légitimes ou pas en régime de laïcité. Et donc j'ai voulu soulever ce paradoxe. D'un côté, on a, et on le voit au niveau des textes juridiques, un redéploiement de la laïcité qui est de plus en plus extensif. La loi 2004 sur le voile, la loi confortant les principes de la République, dite loi sur le séparatisme.
Le fait de considérer que la laïcité n'est pas simplement un principe, ce qu'elle est au plan juridique, mais le fait qu'elle soit considérée par certains, ce qui n'est juridiquement pas vrai, comme une valeur.
Et puis il y a ce glissement. Donc autrement dit, le champ de la laïcité a tendance à s'étendre. Mais étrangement, donc on pourrait s'imaginer, donc effectivement, l'État se désengage, n'a pas à intervenir dans les affaires des cultes. Or, pour l'islam, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour différentes raisons, je veux dire, qui remontent à l'histoire, l'histoire coloniale. Et on constate qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que parfois les pouvoirs publics peinent à imaginer que les musulmans seraient en capacité de gouverner par eux-mêmes leur religion. Parce que l'idée d'un gouvernement de la religion n'est pas en soi antinomique. Tous les autres cultes ont des règles qui régissent leur fonctionnement. Quelles sont les autorités religieuses, comment les former, les relations d'autorité religieuse aux fidèles, comment se structure le culte. Or, il se trouve que l'islam n'a pas cette même tradition de centralisation. Et là, depuis maintenant 20-30 ans, on constate que les pouvoirs publics s'efforcent parfois de suppléer les principaux concernés. Alors, peut-être à raison, parce que parfois les organisations musulmanes elles-mêmes peinent à produire par elles-mêmes un schéma d'organisation générale, mais néanmoins, on ne peut pas confondre le fait de les aider à trouver une solution et le fait de se substituer à elles. Et c'est là, pour moi, le défi, le paradoxe. On a un État qui, finalement, j'allais dire, est quelque part fidèle à une vieille tradition française, qui est le gallicanisme d'État. C'est-à-dire l'idée de se construire, de se fabriquer un islam sur mesure, un islam qui serait en tout point, qui pourrait être en recours éventuellement, si l'État en a besoin, pour conforter telle ou telle orientation. Et on l'a vu dans la lutte contre les phénomènes de radicalisation, à plusieurs reprises, le président de la République lui-même l'a rappelé, qu'il souhaitait que les imams de France s'engagent, participent aussi à ce combat sans doute légitime, mais pour lesquels ils ne sont pas forcément outillés.
Des imams qui, par ailleurs, ont été sacrément oubliés dans cette velléité de gouvernement. Mais ça, on va y revenir, Franck Frégosi. Pour bien comprendre où on en est aujourd'hui, il faut faire un petit détour historique par ce moment de la colonisation, d'avant 1962 en particulier, et donc d'avant aussi la Ve République, mais ça n'empêchait pas la République d'avoir voté cette loi de 1905, qui n'est pas rien dans son histoire, mais qui ne s'appliquait pas de la même façon dans la France métropolitaine et dans les territoires colonisés, en fait.
Tout à fait, et notamment pour l'Algérie, qui pour moi est un peu central. Il ne s'agit pas de considérer que cet élément-là détermine ce qui se passe aujourd'hui, mais on ne peut pas oublier l'histoire. Je crois qu'encore une fois, on s'intéresse aux contemporaines et montrer qu'il y a quand même des pratiques, des représentations de l'islam qui sont héritées de ce moment de notre histoire coloniale. Alors, depuis 1830, l'Algérie était devenue territoire colonial, mais en 1905, alors qu'en métropole, je dirais, parfois la situation était à feu à sang autour du débat sur la loi de séparation, les inventaires dans les églises, voilà qu'en Algérie, tout est fait, alors normalement un décret devait prévoir l'application, tout est fait pour que ce décret ne soit pas. Et que la loi de 1905 n'a jamais été appliquée en tant que telle aux trois départements français d'Algérie.
De la même façon qu'elle ne l'est pas en Alsace-Moselle, alors, pour d'autres raisons
historiques.
Pour
d'autres raisons historiques, elle n'est pas dans les trois départements de l'Est de la France, de la même manière qu'il y a un autre régime qui régit l'Outre-mer, les décrets Mandel, ainsi de suite. Donc, c'est bien de faire un tour de l'histoire et de montrer que finalement, à ce moment-là, parce que tout le problème vient du fait que lorsque la France prend pied en Algérie, elle avait fait des promesses. Nous ne toucherons pas aux biens de main morte. Les biens de main morte sont des fondations pieuses qui permettaient finalement à ce qu'on appelle l'argent musulman de se financer. Or voilà qu'une fois arrivée sur terre, la France annexe, s'approprie ces territoires qui deviennent domaines publics. Donc de fait, elle crée une situation où le culte musulman qu'elle va inventer, qu'elle va construire en bâtissant une hiérarchie, va se trouver dépendant financièrement de l'État. Au départ, ils n'avaient pas envisagé qu'un financement. Puis par la suite, ça va se développer peut-être une vingtaine d'années après le début. Et puis on se dit, bon, 1905, il va y avoir une rupture, puisqu'en métropole, il y a une rupture. Or, il se trouve que dans les trois départements algériens, l'État va continuer à financer l'ensemble des cultes, notamment l'islam, en prorogeant systématiquement. Tiens, voilà, on va prolonger parce qu'il y a un contexte particulier. Alors, ce qui est intéressant à l'époque, ce qu'on évoquait, c'est qu'il y avait toute une école d'orientalistes qui définissait que l'islam ne séparant pas le religieux du politique, il fallait donc que l'État, fût-il non musulman, garde le contrôle. Et puis, il y avait un autre argument. C'est que l'émergence du mouvement national algérien, on craignait que les mosquées deviennent des lieux de contestation. Donc, on a nommé des agents du culte directement dans ces mosquées-là, qui seront rémunérés, rétribués par l'État. Donc, quelque part, s'est construit petit à petit une exception musulmane à la laïcité, mais du fait du contexte particulier de l'Algérie de l'époque et du fait aussi de la politique suivie par les différents gouvernements sur place.
Alors ça vaut pour les territoires en Algérie, notamment, mais pas du tout pour la France métropolitaine. Alors, et de façon, là aussi, paradoxale, la première mosquée construite en Europe continentale, parce qu'en Grande-Bretagne c'était avant, mais en Europe continentale, c'est en Allemagne,
Zossen, oui.
Pour les soldats français, tirailleurs sénégalais,
Land de Brandebourg,
musulmans, un an avant, la première mosquée en France, pour ces mêmes tirailleurs...
L'Institut musulman de la Grande Mosquée de Paris.
Voilà, ou même avant, dans le jardin...
Nogent-sur-Marne,
dans le jardin d'agronomie tropicale,
oui, tout à fait.
En 1917. Mais en 1916, en Allemagne. Donc en fait, les Allemands, qui sont dans une tradition de financement des cultes, construisent, y compris pour les prisonniers de leurs ennemis, une mosquée, là où en France, l'idée que l'État prenne à sa charge, en France métropolitaine, un lieu de culte musulman est quelque chose de beaucoup plus compliqué
à imaginer. Vous savez que pour la Grande Mosquée de Paris, on va dire... On finance un institut musulman, alors que ce sont des radicaux qui ont souligné ce projet. Mais là aussi, c'est intéressant de faire le rappel par l'Allemagne. Il y a aussi un jeu de miroir, c'est-à-dire que la France ne voulait pas apparaître comme traitant moins bien ses sujets musulmans que l'Allemagne. Mais là, ça s'inscrit aussi dans une vision où, à l'époque, la France revendiquait être un empire musulman. Même si ces musulmans n'avaient aucun statut, de pas de nation, ils étaient des sujets. Donc il y a cette idée de bâtir, de montrer qu'à Paris, dans la capitale, il puisse y avoir un lieu de culte, jadis qui rivalisait avec Notre-Dame, pour montrer finalement, quelque part, le projet colonial et civilisateur de la France qui sait se montrer généreuse envers ces sujets musulmans. Cette dimension-là, alors, bien sûr, il y avait aussi une dimension de mémoire, puisque la Grande Mosquée de Paris est bâtie sur un mémorial aussi, des tirailleurs, des troupes coloniales qui sont tombées lors de la Première Guerre mondiale. Mais il y a cette dimension-là, et qui fait exactement écho à ce qui se passait en Algérie. C'est-à-dire, l'État est un, je dirais, veille à ce qu'il y ait une représentation du culte musulman, mais là, en l'occurrence, au service d'un projet qui était le projet colonial. D'ailleurs, les premiers nationalistes algériens, et notamment les temps nord-africains, ne s'y tromperont pas, ils dénonceront ce qu'ils appellent la mosquée réclame.
Alors, si on prend les séquences historiques, on peut dire qu'il y a un premier moment qui est ce moment colonial, et puis il y a le deuxième moment par la suite qui comprend, qui dure très longtemps et qui comprend la période de l'indépendance de ces pays et qui nous amène jusqu'à il y a 20 ou 30 ans,
oui, les années 80, ouais.
Où là il y a un basculement en quelque sorte. Je voudrais qu'on s'arrête un moment sur la deuxième période, parce que dans cette deuxième période où l'islam est moins omniprésent dans l'espace public, il y a néanmoins un gouvernement de l'islam qui passe à la fois par des acteurs politiques, des ministres, leur cabinet, mais aussi par des acteurs administratifs avec un bureau des cultes dans des ministères, ça finira par être le ministère de l'Intérieur. On est toujours sous ce régime aujourd'hui, d'ailleurs, Franck Frégosi.
Tout à fait, mais c'est-à-dire que, vous l'avez rappelé, il y a des séquences historiques qui sont marquées par des événements. Alors, bien sûr, période coloniale, il y avait la question de la colonisation. Ensuite, il a fallu gérer la décolonisation. Et de fait, cette séquence-là, des années 60, l'islam est présent en France. Il y a des musulmans, mais la pratique religieuse ne s'impose pas comme un besoin exprimé publiquement par ces acteurs. On savait qu'il y avait des lieux de culte extrêmement discrets, mais ça ne participait pas, je dirais, de...
C'est pas construit comme un problème public.
D'abord, à l'époque, on ne le construisait pas comme un problème public. Mais on va petit à petit le raccorder à la question migratoire. Parce que de fait, on va dire, mais l'islam, finalement, c'est une religion étrangère, qui regroupe majoritairement des étrangers, et c'est la raison pour laquelle très souvent...
C'est les travailleurs immigrés.
Qu'au départ, on ne percevait comme des travailleurs immigrés, par la suite, progressivement, on les a perçus comme musulmans. Et ce qui va se mettre en place, c'est aussi une volonté de la part de la voie publique de se dire, finalement, puisque c'est une religion étrangère, ben, il n'y avait pas de grande opposition à ce que d'autres États s'en occupent, hein, s'en préoccupent. En 1980, les années 80, la Grande Mosquée de Paris passe sous le giron algérien. Et c'est un peu comme si, pour les pouvoirs publics, bon, ils ont finalement par accepter le fait que cette institution qui a été créée par la République laïque passe sous un autre pavillon, tout en veillant à entretenir des relations avec les nouveaux gestionnaires. Donc, on a cette question où, finalement, l'islam se raccorde maintenant à la question migratoire. Et de fait, la situation de l'islam en France en général, l'islam fait l'objet d'une revendication aussi, parce que dans les années 80, il y a une libéralisation du régime des associations qui fait qu'on voit des associations qui apparaissent, qui sont créées, et dont certaines vont prendre en charge ce besoin religieux de la part de l'association. Alors que c'est vrai que dans les années précédentes, cela ne se traduisait pas de la même manière. Il n'y avait pas le contexte ne prêtait pas à une mise en avant de la dimension de l'islam, alors que dans les années 70, il y a quand même la révolution iranienne qui va jouer un grand rôle.
Voilà, et ça va même conduire la gauche au pouvoir à s'inquiéter du fait que certaines grèves dans les usines
seraient commanditées par des agents roménistes.
Absolument.
C'est une déclaration de Pierre Mauroy.
C'est quand même Pierre Mauroy qui...
Oui, tout à fait. Et repris par Gaston Defferre. C'est-à-dire qu'on a là, y compris de ce côté-ci du champ politique, cette idée que, ben déjà, une sorte de suspicion à l'égard de la présence de l'islam. Et si cet islam était manipulé par des agents extérieurs ? À l'époque, effectivement, la révolution...
On peut dire que c'est les prémices de la loi séparatiste, la récente loi séparatiste, sur laquelle vous aboutissez, au fond, sur laquelle, pour l'instant, cette enquête aboutit.
En tout cas, c'est un élément de plus dans la genèse historique de l'islam érigé en problème, sur lequel on ne peut pas passer, parce que finalement, on se rend compte que, alors même que ces grèves avaient des raisons
sociales,
on va ériger comme variable explicative la dimension du religieux. Et ça, vous allez le retrouver par la suite. Alors effectivement, d'une certaine manière, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui caractérise un peu le contexte actuel, c'est cette espèce de tendance à vouloir tout ramener à l'islam. Pas forcément pour de bonnes raisons, simplement comme si effectivement on n'était plus en capacité de penser les problèmes dans leur contexte économique, politique, diplomatique, mais qu'il fallait toujours que la question de l'islam revienne sur le devant de la scène, comme si finalement cette présence religieuse, cette réalité religieuse française, bien, n'avait pas été acceptée par bon nombre de nos compatriotes ou parfois par certaines élites politiques.
La dimension diplomatique, disiez-vous, elle est très importante. Vous rappeliez le rôle de l'Algérie dans la Grande Mosquée, dans l'organisation d'une partie de l'islam en France. Mais il y a d'autres pays qui interviennent. C'est très complexe. Et il y a toujours cette crainte, ces suspicions, au fond, que l'islam, à l'intérieur de la France, puisse être instrumentalisé, manipulé, dirigé en sous-main par telle ou telle puissance étrangère, sachant qu'entre elles, ces puissances sont dans des relations. Pour ne parler que de l'actualité, la situation complexe entre le Maroc et l'Algérie aujourd'hui pose des questions quant au gouvernement de l'islam en France.
Voilà, vous disiez au tout début de l'entretien, c'est une affaire d'État, une religion d'État. Mais d'État avec un S, moi je rajoute. Parce qu'effectivement, il y a l'opérateur étatique français, dont vous avez dans le ministère de l'Intérieur, le bureau des cultes, mais il y a d'autres opérateurs étrangers. L'Algérie aussi, alors qui nous renvoie aussi à notre propre passé colonial. Le Maroc, les grandes rivalités. Mais n'oublions pas d'autres acteurs plus récents. La Turquie. Et Dieu sait, si je puis dire, que les tensions entre Paris et Ankara expliquent aussi le raidissement des pouvoirs publics à l'égard d'un certain nombre de fédérations qui regroupent majoritairement des musulmans turcs.
Mais aussi donc, le Qatar, mais aussi alors, l'Arabie Saoudite.
Le Qatar, on le critiquera peut-être moins officiellement parce qu'il aide par ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a eu souvent des critiques par rapport à des financements. Financements saoudiens, donc, c'est les puissances étrangères. Certains d'entre elles, alors c'est pas le cas du Qatar ou pas le cas de l'Arabie Saoudite, mais quand il y a de fortes populations issues de l'immigration, ont toujours considéré que leur diaspora, il fallait garder un œil sur leur diaspora. Et donc, les velléités d'interventionnistes dans les États étrangers sont dictées au fait qu'ils veulent garder un contrôle politique sur leur diaspora pour contester, pour vérifier en tout cas, que certaines d'entre elles ne critiquent pas trop les autorités. D'où la volonté de l'Algérie jusqu'à aujourd'hui de garder le contrôle sur la Grande Mosquée de Paris. Et le Maroc, de son côté, a mis aussi en place d'autres structures pour faire valoir ses intérêts.
Alors, Franck Frégosi, oui. Pour résumer, on a un gouvernement de l'islam en France pendant la période coloniale, au moment de la décolonisation, qui existe déjà. Mais il va prendre une autre forme et le problème public de l'islam va se construire différemment à partir des années 80. Pour essayer de saisir deux moments, on peut prendre 1984, les énormes manifestations contre la réforme de l'éducation nationale et la création d'un service public unifié de l'éducation nationale, réforme Savary. On voit que la laïcité, elle est du côté de la gauche, elle est liée à ce projet de loi. On a la droite qui, à Versailles, manifeste contre la laïcité. Et puis, 1989, on a la décision du Conseil d'État, suite à l'affaire du foulard à Creil, qui va marquer, peut-on dire, un début de renversement où, au fond, la question de la laïcité ne se posera plus principalement au regard de la religion catholique, mais au regard de l'islam, en fait.
Tout à fait. Je crois qu'il y a eu un basculement progressif, c'est-à-dire que, vous l'avez rappelé, finalement, le cœur même du combat laïque en France, c'est d'abord un combat contre l'omniprésence de l'Église catholique dans la société, dans les écoles, les hôpitaux. Et donc, cette partie-là, finalement, l'Église catholique, j'ai l'impression, n'impressionne plus grand monde.
Et la présence, d'ailleurs, elle reste conséquente, réelle, en dépit de la laïcité.
Ne serait-ce que dans le patrimoine architectural.
On trouve dans les hôpitaux publics des crucifix dans les chambres. Elle reste, que ce soit à titre symbolique ou pas, elle est là.
Elle n'est plus perçue, j'allais dire, comme une menace intérieure. Tandis qu'effectivement, s'agissant de l'islam, il y a cette idée qu'en plus, ce n'est pas n'importe quelle religion. C'est quand même la religion qui a été celle des ex-colonisés. Donc, se construit tout un discours se disant, finalement, ils ont acquis l'indépendance, mais l'islam, finalement, revient sur le territoire national, se développe, et surtout, à travers la querelle sur le voile, met en avant un certain nombre, certains en tout cas, mettent en avant un certain nombre d'attributs vestimentaires qui, de surcroît, pour bon nombre, et on peut le comprendre, que de laïcs, remettent en cause le principe d'une égalité femmes-hommes et le fait que les femmes sont libres de s'habiller. Sauf que la liberté de choix ne semble pas être reconnue aux musulmanes qui peuvent porter la tenue qu'elles souhaitent, d'autres qui ne le souhaitent pas. Et donc là, la mécanique commence à se mettre en place et très vite, on va voir avec la loi de 2004, comment finalement, une des stratégies qui va être développée, c'est de limiter la visibilité urbaine dans la société de l'islam. Dans le cas du service public, et là, c'est un vrai débat qui est posé, c'est-à-dire est-ce que jusqu'à étendre le principe de la neutralité religieuse aux usagers du service public de l'éducation nationale, ce qui était une innovation par rapport à ce qu'avait été.
C'est la pas laïcité. Dans l'esprit de la loi de 1905 en tout cas.
Alors en tout cas, même dans les lois de laïcité scolaire, c'était les bâtiments et les enseignants. Là, on vise les usagers. Et vous savez très bien comme moi qu'il y a eu des moments des dérapages. Hein. que certains ont prétexté que, et tout le débat n'est pas d'aujourd'hui, donc du coup, celles qui accompagnent les enfants des sorties scolaires pourraient être touchées par ce dispositif. Le ministre, je crois, Retailleau l'a rappelé, alors que c'est pas son champ de compétence, il souhaiterait que le voile n'est pas le bienvenu en France, comme l'avait dit monsieur, je crois, Blanquer à l'époque.
On voit ce qui se passe pour des étudiantes du supérieur qui sont scolarisées dans des lycées, par exemple.
Voilà. Alors que dans le supérieur, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas concerné. Mais donc, on a un glissement, un élargissement du principe de laïcité par rapport à la visibilité de l'islam. Alors. Encore une fois, on a privilégié de passer par la loi. C'est pour ça que je dis que par ce mécanisme-là, d'autres lois sont venues par la suite, on veut quelque part limiter cette visibilité, j'oserais même dire un peu domestiquer l'expression publique de l'islam en France.
Mais j'ai toujours eu, depuis longtemps, Franck Frigosi, le sentiment qu'il y avait un double basculement en 1989. C'est-à-dire qu'à la fois, ce n'est plus la religion catholique qui était en ligne de mire de la laïcité, mais l'islam, premièrement, mais deuxièmement, qu'on passait d'une laïcité qui se souciait des institutions, qui veillait à ce que les institutions soient neutres, à une laïcité qui commençait à se préoccuper des personnes.
Oui.
Et plus de point de vue-là, c'est ça qui est frappant avec l'islam. C'est-à-dire qu'au fond, la focalisation sur l'islam, elle concerne davantage le port du voile ou des actes individuels que l'organisation de l'islam. C'est même presque l'inverse. Parce qu'au fond, à mesure qu'on va mettre en place des choses qui rendent la vie difficile pour des musulmans en France à titre personnel, on va essayer d'un autre côté d'organiser l'islam en tant que vie collective à travers la mise en place de différentes institutions ou tentatives sans que la question soit aujourd'hui complètement. Mais
je pense que la question, c'est qu'effectivement, il faut mettre en parallèle l'évolution aussi de la laïcité. Il y a même un glissement dans ceux qui s'emparent de la laïcité. Vous l'avez dit, la laïcité, auparavant, faisait partie des combats de la gauche républicaine. Or, progressivement, on voit émerger certaines formes de laïcité un peu différentes, comme le dit mon collègue Jean Bobéro, une laïcité identitaire, où finalement, la laïcité n'est plus la laïcité des principes, mais la laïcité en valeur. Comme si la laïcité était finalement le substrat.
Ce n'était pas un simple française. Opérateur, mais...
Ce n'était pas un mécanisme qui garantissait la liberté, mais c'est un élément identitaire, et avec tout ce que cela suppose, donc qui est opposable à tous ceux qui souhaitent intégrer, je dirais, le territoire national. Donc c'est pour ça qu'il y a une focale particulière qui est mise par rapport à l'islam, en disant, mais finalement, l'islam doit se plier à un certain nombre de règles, ce qui est tout à fait vrai, s'agissant de respecter l'ordre public, mais on a l'impression que, s'agissant de l'islam, il y a volonté d'avoir une laïcité un peu plus intrusive. C'est-à-dire on va s'intéresser au comportement. Alors, il y a eu débat sur est-ce qu'on considère que le voile porte atteinte à la dignité, à l'égalité. Je l'admets parfaitement. Mais j'observe ce glissement duquel on n'est pas sorti véritablement. Et avec cette idée de rentrer dans des points de détail, quand vous relisez les rapports parlementaires qui ont traversé cette séquence-là, y compris sur la loi sur le voile intégral, qui renvoie à un autre principe et pas du tout à la laïcité, vous rendez compte que nos parlementaires se sont lancés dans des analyses, des textes religieux. Jamais auparavant, je pense, la représentation nationale n'est allée aussi loin. Comme s'ils étaient conscients qu'ils étaient sur un terrain extrêmement miné et qu'il fallait qu'ils trouvent des arguments éventuellement religieux pour justifier une loi d'interdiction et de prohibition, qui est un fait, et sur lesquels, j'allais dire, rares sont les forces politiques qui souhaiteraient aujourd'hui revenir dessus. Simplement, on constate qu'il y a eu la question du voile à l'école, puis ensuite, il y a eu des tentatives visant à créer des écoles privées sous contrat, et vous savez qu'aujourd'hui, le vrai débat, c'est que ces écoles se voient plus ou moins soumises à un régime d'exception. En tout cas, certains d'entre elles ont perdu le contrat avec l'État. Donc, d'un côté, pas de voile à l'école, ok, pas de foulard à l'école. Musulmans avaient envisagé de créer des écoles privées sous contrat. Certaines ont été créées, et aujourd'hui, certaines d'entre elles ont fait l'objet, je dirais, de décisions administratives visant à leur retirer le contrat avec l'État. Donc il y a vraiment un durcissement, mais là, qui prend appui sur le fait que, simplement, dans ce cas précis, les musulmans ont souhaité bénéficier des mêmes avantages en termes de liberté d'enseignement que leurs homologues juifs, catholiques ou protestants.
Oui, ces difficultés de l'enseignement... de l'enseignement secondaire musulman ont été pointés par le politiste, votre collègue Pierre Mathiot, oui. Récemment, alors même qu'il...
À propos de Lille, notamment.
Alors même qu'il a travaillé avec Jean-Michel Blanquer, qui est pourtant l'un des tenants de cette laïcité nouvelle. Il fait partie de ceux que vous décrivez, parce que dans votre livre, vous vous intéressez à tous ces acteurs sociaux qui ont participé de ce basculement que vous venez de décrire. Ce sont à la fois des élus, bien entendu, ce sont aussi des responsables associatifs, ce sont des administrateurs, mais ce sont également parfois des intellectuels, des chercheurs. Oui. C'est tout ce monde que vous essayez de saisir pour comprendre ce qui s'est passé.
Moi, je pense que si on s'intéresse à un phénomène de gouvernement de l'islam, Il ne faut pas s'imaginer que tout vient du haut vers le bas. À un moment donné, les acteurs étatiques ont eu besoin d'avoir, de construire des partenariats. Je l'évoque à propos de l'islam. Hein. Un certain nombre d'acteurs de l'islam, j'allais dire associatifs, ont largement participé à cette idée de construire une représentation de l'islam en France qui reprennent les attendus du pouvoir public. Et on, d'ailleurs, la crise d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'organes de ce type-là qui est plus porté sur les musulmans. À côté de cela, effectivement, vous avez raison, il y a eu aussi tout un certain nombre de groupes, d'associations qui ont une vision, je dirais, peut-être extensible à la laïcité. J'évoque le printemps républicain ou d'autres. Et il y a eu aussi des acteurs publics, notamment le ministre Blanquer l'a été de cela. Et il a toujours été très clair en la matière. Il avait à plusieurs reprises rappelé que pour lui, par exemple, le voile n'était pas le bienvenu en France. Et donc, de fait, on a eu toute une certaine d'acteurs publics qui, par-delà le ministère de l'Intérieur, avaient clairement l'idée que le temps était venu, finalement, de changer un petit peu, passez-moi l'expression, de braquer. Laïcité de principe, très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut parfois une laïcité de combat. Et j'emploie volontairement ce terme parce qu'il a été souvent utilisé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à dénoncer certaines pratiques extensives de la religion, prétendues être le reflet d'un maximalisme religieux généralisé. Et une expertise s'est aussi mise en place qui tente, qui bien sûr repose sur des fondements analytiques précis, mais qui va essayer de montrer que finalement, ce qui se passe dans les sociétés majoritairement musulmanes a des prolongements en France. Et que il ne faut pas regarder à la légère, porter un regard extrêmement léger sur les pratiques vestimentaires ou la consommation du halal. Sans doute, c'est des prémices d'un phénomène qui peut aboutir par la suite à une forme de séparatisme vis-à-vis de porté par l'islam.
Alors, je le disais, vous vous êtes intéressé à la fois à l'univers politique, à l'univers administratif, pour comprendre ces manières classiques, dites-vous, de gouverner l'islam, mais également au surgissement de ces nouveaux acteurs, à la manière dont l'islam a été construit comme un problème politique dans l'espace public. Et ça, on ne peut le comprendre que si on regarde aussi le rôle des médias et de ceux qui sont intervenus dans les médias, et notamment des chercheurs. Et ce qui est frappant en vous lisant, c'est qu'on voit à quel point, au fond, ceux qui ont contribuer à ce renversement, à ce changement, à cette évolution de la conception du gouvernement de l'islam, sont des chercheurs ou des chercheuses qui sont pour le moins isolés dans le monde académique, mais qui pourtant jouissent d'une consécration médiatique, je dirais inversement proportionnelle au crédit scientifique qu'ils ont. C'est assez troublant quand on est journaliste et qu'on s'occupe de faire en sorte que les sciences sociales telles qu'elles se pratiquent soient partagées par le plus grand nombre dans l'espace public. On ne comprend pas pourquoi des gens dont les travaux ne sont pas particulièrement remarqués ni remarquables ou assez rares occupent une telle place médiatique. Vous vous interrogez aussi sur ces aspects-là des choses, Franck Frigoli.
Je fais y compris une autocritique. C'est-à-dire, dans le domaine des sciences sociales, bon nombre de collègues rechignent à souvent aborder frontalement certaines questions qui se posent, voire même parfois refusent de répondre aux soucis des pouvoirs publics. Or, je pense que c'est une erreur, parce que si on ne répond pas, je dirais, à ces sollicitations, tout en respectant nos libertés académiques, qu'on ne s'étonne pas ensuite que d'autres, je dis,
occupent la place.
Occupent la place. En même temps, le fait qu'il y ait des universitaires, des experts qui soit impliqué dans ces politiques, est un grand classique. Je l'évoque pour la période coloniale, donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, par contre, c'est que ils en viennent eux-mêmes, j'allais dire, parfois, à fournir le récit national. Ils alimentent un récit national, par exemple, de l'islamisation de la France. Je reviens dessus, et j'observe simplement que ce qui fait leur force, c'est... Alors, je distinguerai, il faudrait distinguer. Il y a des chercheurs qui ont une véritable connaissance des sociétés musulmanes. On peut pas leur retirer cela, une véritable connaissance dans longue durée.
Et qui correspond en général à une première phase de leur carrière.
Voilà. Mais qui ensuite transpose ce schéma au contexte français. Alors, non pas qu'il y ait des continuités, mais il y a beaucoup de discontinuités et on ne peut pas simplement raisonner en disant que on a les mêmes configurations. Il y a beaucoup plus d'hétérogénéité dans l'islam de France. Donc ça, je l'admets parfaitement. Simplement, la difficulté, ce qui est intéressant, c'est que leur discours a pris. D'abord, ce discours, vous l'avez raison, il est extrêmement relayé médiatiquement. Il y a une puissance de feu médiatique qui fait que régulièrement, dans les radios, vous entendez telle ou telle analyse qui revient. Et je me suis simplement borné à lire ce que les acteurs publics disent. Or, ils reprennent in extenso souvent les définitions que ces chercheurs ont eux-mêmes forgées. Et j'en veux pour preuve que, y compris notre ministre actuel de l'Intérieur, a repris à son compte un certain nombre d'analyses qui sont produites dans ce champ d'expertise, et il souhaite les mettre en musique, en œuvre. Et là, je peux m'interroger. D'abord, est-ce que tout ce qui nous est énoncé repose véritablement sur une expertise minutieuse de la réalité? Est-ce que c'est peut-être pas ce que certains ont envie d'entendre? Beaucoup plus que le reflet de ce qui se passe. Encore une fois, moi, je défends l'idée d'un pluralisme des analyses d'approche. Ce qui est insupportable, c'est qu'il y ait une vision hégémonique qui s'impose. Or, je trouve que là, peut-être les pouvoirs publics auraient eu intérêt à diversifier les angles de vue, mais manifestement, c'est pas le choix qu'ils ont fait, pour une raison, à mon avis, aussi claire, peut-être ça ne sont pas d'accord, c'est l'impact des attentats en France. On fait qu'il y a eu une sorte d'électrochoc et qu'il a fallu, on est parti à la recherche d'explications. Or, un certain nombre de récits étaient présents et on les a mobilisés. Et ce faisant, j'allais dire, même si, bien sûr, ça appelait une réponse sécuritaire, mais tout ce qui relève d'une analyse, justement, des présupposés de ces engagements, suppose quand même un peu plus de finesse et surtout, me semble-t-il, prendre en considération que les situations qui ont amené des individus à recourir à l'irréparable, c'est-à-dire à donner la mort à d'autres. Or ça, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment mis en avant, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir un peu avoir une vision un peu hybride de la réalité. Tout ne s'explique pas par les doctrines. Surtout que ceux qui ont commis ces actes irréparables n'étaient pas spécialement, je dirais, des très doctes en la matière.
Donc, il vaut mieux faire un peu de sociologie que d'histoire des idées.
Il faut combiner les deux. Il faut à la fois lire les textes doctrinaires, mais aussi prendre en considération le contexte dans lequel vivent un certain nombre de populations et surtout leur propre socialisation. Encore une fois, moi, je pense que beaucoup d'approches pourraient être conciliables. Simplement, j'ai l'impression qu'on a privilégié une approche et qu'on s'en tient qu'à cette approche-là.
Alors, vous n'êtes pas que dans une posture critique, Franck Frigosi, vous le rappeliez, vous êtes pour ce pluralisme et ce débat entre les approches. Vous terminez votre livre, d'ailleurs, avec des pistes, des propositions, des choses qu'on pourrait imaginer pour faire en sorte que ce gouvernement de l'islam corresponde davantage à la réalité des pratiques. Je disais tout à l'heure, vous citiez les imams qui sont les grands absents quand même de ce gouvernement de l'islam en France. Alors on fait un peu appel à eux plus récemment, mais jusqu'à présent ils ont été complètement ignorés. Ça fait partie des...
Ils ont été des objets de politique publique, mais ils n'ont jamais été considérés comme des sujets à part entière.
Alors qu'a priori, c'est ceux qui réfléchissent le plus. Il faut bien comprendre qu'il y a une distinction entre les recteurs des mosquées et les imams. C'est une division du travail propre à cette organisation de la religion musulmane, qui ne correspond pas tout à fait à d'autres organisations religieuses, en fait.
Vous avez raison de souligner qu'effectivement, mon livre n'est pas simplement un état des lieux qui comporte une dimension critique, c'est aussi l'idée de dire, voilà, quelles pourraient être des pistes à creuser, qui n'ont jusqu'à présent jamais été évoquées. Soyons clairs. J'évoque qu'il y a deux grands absents dans ce dispositif, ce sont les fidèles, qui, je le rappelle, sont ceux qui fréquentent les lieux de culte, sont ceux qui versent des oboles, et l'islam de France, tant bien que mal, arrive largement à s'autofinancer.
Et ils sont très divers.
Et les imams, qui sont théoriquement ceux qui sont amenés à édifier religieusement les fidèles, en tout cas le vendredi. Or, voilà deux acteurs qui, jusqu'à présent, ont vu passer le train de la gouvernance de l'islam en France et n'ont jamais été invités à y monter. On a vu des présidents de fédération, des recteurs de mosquées, très bien, ce que j'appelle moi des gestionnaires du culte, qui sont des acteurs
d'autres États.
D'autres États. Mais bizarrement, les principaux concernés que sont les croyants, plus ou moins observants d'ailleurs, et les imams n'ont pas été associés. Alors, plus récemment, dans l'euphorif, il y a eu un groupe de travail spécifiquement sur les imams. Donc, on a vu apparaître des imams. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas la solution miracle, mais comment peut-on continuer à bâtir des structures dont on sait très bien qu'elles sont dépourvues d'une véritable légitimité si on n'associe pas à ce processus ces deux acteurs qui sont des acteurs clés. Alors, j'évoque effectivement ce qui se fait dans d'autres cultes. Alors, je mets de côté l'Église catholique et une tradition de centralisation.
Mais l'exemple historique des Juifs en France est très...
Et des protestants. Le judaïsme est intéressant parce que en plus, notamment quand on parle de la période coloniale, le judaïsme algérien a subi un processus de mise au pas, de domestication aussi, notamment, on voulait le faire rentrer dans le moule du système consistorial en métropole. Donc, quelque part, ils ont aussi été contraints on leur a imposé un mode d'organisation, un mode de fonctionnement, comme on essaie de le faire pour les musulmans. De surcroît, il y a quand même l'héritage antérieur de Bonaparte, qui avait voulu structurer le culte juif. Simplement, aujourd'hui, comme le culte protestant, ce sont les fidèles. Alors, à jour de capitation, qui participent à l'élection de ceux qui doivent finalement administrer, gouverner le culte à l'échelon régional.
Oui, c'est très décentralisé.
Donc c'est très décentralisé avec le consistoire central et les consistoires régionaux. Donc je dis simplement, regardons ces histoires particulières de minorités. On pourrait peut-être en tirer des exemples. Je prends notamment sur la question des postes vacants, tant pour des rabbins que pour des pasteurs, où en général, on demande aux candidats de venir présenter un prêche. Et la communauté, pourra émettre un avis. Moi, j'ai vu ça dans une mosquée, en Gironde, où effectivement, ce jour-là, le vendredi, il y avait un imam qui faisait un test, une prêche, un prêche-test, pour savoir s'il allait ou non être retenu. Donc, je dis qu'il y a des il y a des solutions qui existent, il y a des initiatives, mais j'ai l'impression que personne n'en veut, de vous à moi. Pas plus les pouvoirs publics que les grandes fédérations musulmanes.
On continue à parler de gouverner l'islam en France. C'est le titre de votre livre, Franck Frégosi, avec un architecte, Fawzi Boudren, qui nous rejoint en deuxième partie d'émission, mais c'est après un extrait du nouvel album de Lily Hyatt, Man. Gouverner l'islam en France, c'est le titre du livre de Franck Frégosi, politiste, directeur de recherche au CNRS, enseignant à l'Institut d'études politiques d'Aix en Provence. On continue de parler de ce livre avec un architecte. On parlait beaucoup de droit aussi dans cette partie. Un architecte qui est en ligne avec nous depuis le sud de la France. Bonjour, Fawzi Boudren.
Bonjour.
Vous m'entendez? Vous êtes l'auteur, comme architecte, de bâtiments particuliers que sont des mosquées. Alors avec Franck Frégosi, on se posait la question de trouver quelqu'un, selon le principe de cette émission, qui vient du monde de la création, et l'architecture est un des univers de la création, et qui aurait donné à voir, au fond, des représentations de la religion musulmane dans l'espace public. Évidemment, les mosquées, mais qui sont aussi des centres culturels, parce que souvent, il y a la double fonction pour vous, sont les plus visibles et les plus importants. Comment vous avez été amené à imaginer ce type de bâtiment? Est-ce que vous avez été sollicité par des communautés?
J'ai été sollicité par des associations qui avaient pour projet donc de construire soit des mosquées ou bien des centres culturels musulmans, culturels et cultuels, je veux dire. Donc j'ai commencé à travailler selon un programme établi par l'association et à faire des esquisses et à proposer des esquisses selon ma vision contemporaine d'un centre culturel ou d'une mosquée.
Et donc, c'est à l'initiative d'associations. Et comment vous avez monté, au fond, ces projets? J'imagine que le financement de ce type de projet est assez différent de bâtiments. Je ne sais pas si vous avez construit, par ailleurs, des écoles ou des bâtiments publics divers et variés.
Tout à fait. Donc, le financement est totalement différent. Donc, l'approche, pour moi, en tant qu'architecte, a été différente. Dans le sens où les chantiers en général duraient un peu plus longtemps vu, les fonds qui ne parvenaient pas de manière régulière, où il n'y avait pas en fait une
prévisibilité, j'imagine.
Une prévisibilité, j'ai appris à travailler en ayant réalisé 4 projets de ce type, à travailler dans ce contexte-là.
Quels sont ces projets? Peut-être vous pouvez en prendre certains comme exemple et nous expliquer ce que vous avez voulu faire avec certains d'entre eux.
Par rapport au financement ou par rapport...
Non, en général, par rapport à l'intention qui a été la vôtre, architecturale, je veux
D'accord.
dire.
D'accord. Alors pour moi, en tant qu'architecte, j'ai toujours dit que l'architecture, en fait, elle avait un message. On a souvent dit qu'un bâtiment parle, émet des sensations. Pour moi, une architecture, quelle qu'elle soit, doit émettre des émotions et doit avoir un discours. Donc, mes projets de centre culturel ou de mosquée, pour moi, devaient avoir ce degré d'appartenance à une image collective. Donc, parce qu'il ne viendrait pas à l'esprit de construire un lieu représentant l'islam dans un langage autre que le langage contemporain dans lequel on vit. Et c'est comme ça que j'ai présenté en fait mes projets, qui au départ, vu les images qu'on a en fait d'un projet de mosquée, qui pouvaient en fait pas déranger, mais en fait par rapport à cette image qu'on a, donc je présentais en fait des projets assez contemporains, donc en expliquant bien sûr l'essence même d'une architecture qui représente l'islam et parce que l'objectif en fait c'est que toutes les personnes et quelles que soient leurs croyances doivent pouvoir dire ce projet me ressemble. Voilà. L'idée c'était que tout le monde s'approprie ces projets-là.
Dans la mesure où c'est des bâtiments de l'espace public, il y a une double dimension. À la fois, ils devaient s'inscrire dans une tradition culturelle et religieuse, et en même temps s'adresser à l'ensemble de la population. C'est ça, c'était ça votre objectif.
C'était ça mon objectif. Après, j'ai expliqué parce que il y a l'ancienne génération qui a en fait cette image d'édifice de mosquée bien
typique, oui.
Voilà, typique. Et j'ai expliqué un peu, j'ai été un peu dans la pédagogie, pour ne pas heurter les uns et les autres, et en leur expliquant que on pouvait pas construire, et moi en tant qu'architecte, je ne pouvais pas construire, un projet, dans un lieu ou dans un pays qui prend pas, en fait, les données culturelles, de ce lieu-là.
Il s'agissait aussi, j'imagine, d'éviter les lieux communs, les clichés orientalistes, kitsch, même associés à l'imaginaire qu'on peut avoir.
Oui, de toutes les façons, moi je ne peux pas faire ce type d'architecture.
Bah, j'imagine que vous êtes trouvé dans la même situation que des gens qui ont eu à construire des églises dans les années 50, 60 en France, en fait.
Tout à fait.
Franck Frégosi.
Bonsoir Fauzi, merci d'avoir accepté. Mais je pense qu'il est intéressant dans ce que vous dites, c'est aussi, je pense notamment à la mosquée de la Seyne-sur-Mer. Vous avez aussi tenu compte de l'environnement, j'allais dire, on est dans la Méditerranée, donc ces bâtiments doivent aussi refléter, j'allais dire, un certain terreau. Un terroir, en tout cas, un terroir avec notamment les oliviers, puis les vues, puis je pense aussi pas mal d'exemples de cubes et de lumière. Et je crois que moi, j'aimerais bien que vous parliez un peu de cela, parce que moi, ça m'a frappé dans Mosquée de Vitrolles aussi, comment vous avez associé la lumière, les volumes, avec ce projet qui est un édifice aussi à vocation religieuse.
Oui. Alors donc, moi, en fait, étant donné que ces projets s'inscrivaient dans un environnement méditerranéen, donc je me suis inspiré de l'architecture méditerranéenne donc pour justement édifier ces projets-là. Donc il y avait cette notion de lumière, il y avait cette notion aussi de travailler sur l'ombre et la lumière, de tamiser cette lumière par des moucharabiers, tel que je l'ai fait à la Seine et dans certains projets.
Avec des écritures sur les moucharabiers aussi.
Oui, tout à fait, voilà. Alors ça, c'est le côté symbolique, en fait. Parce que, en fait, vu que les calligraphies qui étaient sur les façades, notamment celles de la Seine-sur-Mer, sont une retranscription donc de l'appel à la prière. Donc pour moi, c'est une symbolique, en fait, comme l'appel à la prière ne peut pas se faire donc de manière vocale, il a été, je l'ai utilisé donc de manière écrite pour symboliser ce lieu. Et ça jouait aussi le rôle de filtre par rapport à un intérieur qui était transparent pour justement permettre la lumière donc de pénétrer ce lieu-là, tout en gardant ce style, enfin, ou ce jeu d'ombre et de lumière à l'intérieur de l'espace.
Non, je crois. Je voudrais aussi poser une question, peut-être Faouzi. Comment s'est passée la discussion, l'échange avec à la fois les présidents d'associations, mais est-ce que les imams aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ont pu avoir aussi vous ont fait part de leurs remarques, puisque ce sont aussi les principaux usagers, hein. C'est eux qui montent sur le minbar le vendredi. Est-ce que vous avez eu des témoignages particuliers dans ce sens?
Pas vraiment, parce que j'ai pas vraiment eu affaire à des imams. C'était généralement les présidents d'associations. Donc c'était eux qui représentaient le maître d'ouvrage. Donc et moi, mon rôle était justement de présenter un projet qui répondait à un programme et qui répondait justement à une architecture contemporaine telle que je la voyais. Mais il n'y a pas eu d'échanges. Quelquefois, il y a eu des échanges, mais pas de manière à imposer une certaine vision, mais des échanges de curiosité. Pourquoi
C'est pas l'imposition, je pensais à la curiosité, justement. Pourquoi ce volume,
oui.
Pourquoi cette...
C'est ça, tout à fait. Après, moi, je revenais un peu à l'histoire, un peu des mosquées, quand on parlait d'une image, en fait, d'une mosquée avec minaret. Pourquoi il n'y a pas de minaret? Pourquoi il n'y a pas de coupole? Pourquoi? Donc, j'expliquais que le minaret était justement, comme le clocher d'ailleurs pour les églises, était un résultat donc d'un besoin donc de l'époque qui n'existe plus. Donc maintenant les repères, donc on utilisait le minaret ou les clochers pour se repérer dans l'espace ou pour visionner de loin ces lieux. Et maintenant donc on est dans une ère où la densification est telle qu'on peut pas avoir ce recul. Et donc, cet élément-là n'a pas lieu d'exister, ou il est transformé, ou il est utilisé différemment. Voilà.
Merci beaucoup, Faouzi Chaoui Boudren, pour ce récit d'expérience de construction de ces mosquées qui viennent éclairer une partie du débat que nous avons eu, de la discussion que nous avons eue avec Franck Frégosi. Je rappelle le titre de votre livre, Franck Frégosi, Gouverner l'islam en France, il paraît aux éditions du Seuil.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Actualité maintenant dans ce troisième temps de la suite dans les idées à propos du numéro 97, hiver 2004, de la revue Multitude, précieuse revue que Multitude. Alain Deneville, vous avez coordonné le dossier, alors ça s'appelle pas comme ça s'appelle les majeurs dans Multitude, mais ça revient au même. Et ce qu'il y a de précieux dans cette revue, c'est à la fois de proposer des dossiers comme celui-là, dont on sent qu'ils sont préparés de très longue date, et en même temps d'être capable d'accueillir des pages plus chaudes, comme on dit dans la presse, avec des articles qui rebondissent sur l'actualité la plus immédiate, et en l'occurrence ce que vous appelez le cauchemar Trump, ou que ce que le collectif de la revue Multitude appelle le cauchemar Trump 2, ou la nuit américaine.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, dans Multitude, on a plusieurs dossiers, dont la majeure frontière lisière, qui est accompagnée d'une mineure désertée pour mieux chercher. Et nous avons des achats, dont un sur le cauchemar Trump, mais aussi un sur l'interdiction d'Elon Musk, l'interdiction justement de X au Brésil. Et en fait, c'est vrai qu'on essaye dans le comité de rédaction d'avoir un peu cette double temporalité, à la fois une temporalité très universitaire, un peu plus longue, avec des expertises, des articles, et aussi on se permet certaines commentaires un peu plus à chaud avec une expertise universitaire sur des sujets dont l'élection de Trump, qui nous a pris pour notre part un peu de court. On sentait venir l'élection de Donald Trump, donc le numéro, pour vous donner une temporalité, a été bouclé en octobre, donc l'article a vraiment été écrit assez à chaud en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en universitaire, comment on peut penser ce qui s'est passé justement avec cette élection de Donald Trump et quelles pistes pouvons-nous donner. Malheureusement, je pense que ce cauchemar est encore pire que ce à quoi on s'attendait en octobre, et le début du mandat de Donald Trump ne fait que confirmer que ce cauchemar sera peut-être un cauchemar de cauchemar, si je peux me permettre.
Oui, on attendra d'autres numéros, j'imagine, de Multitude pour s'emparer de la question. Mais dans ces papiers à chaud, vous revenez, vous, notamment sur l'interdiction de X, ce réseau social de Musk, au Brésil. Pourquoi avoir fait ce choix et cet éclairage, et en quoi il nous permet de comprendre aujourd'hui ce qui se passe autour de ce réseau qui est en train d'être boycotté, déserté par beaucoup?
Oui, donc c'est un article que j'ai écrit avec Giuseppe Coco, qui est professeur à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Et en fait, on se trouvait au Brésil à ce moment-là. Et ce qui nous avait intéressé, c'était de voir la différence de réception, justement, de cette interdiction entre ce que moi je pouvais lire en Europe et ce qu'on pouvait avoir au Brésil. Et en fait, ce qui nous avait paru assez intéressant, c'était de voir comment, par exemple, quand on interdit en général un réseau social ou qu'on peut appeler entre guillemets le censurer, on pouvait, quelques mois en avant, la Nouvelle-Calédonie avait interdit TikTok et on avait vu un soulèvement assez important, à se dire mais pourquoi on interdit TikTok à ce moment-là. On voyait que dans l'interdiction de X au Brésil, au contraire, tout le monde était assez content de se dire bah voilà, on va pouvoir mettre en place une régulation de cette plateforme titanesque, avec un pouvoir politique de plus en plus important. Et on a proposé avec Giuseppe d'analyser ce qu'on a appelé les deux corps d'Elon Musk. À la fois, malheureusement, qu'on le veuille ou non, Elon Musk, c'est celui qui fait Tesla, c'est celui qui a fait Starlink. Et Starlink a un rôle assez important au Brésil parce qu'il permet d'alimenter en Internet et donc d'offrir un accès au monde de l'information à des zones reculées qui, à cause de la structuration du territoire brésilien, n'ont pas accès à Internet parce que les infrastructures n'ont pas là. Donc, c'était de voir comment ce Starlink était lié d'une certaine manière avec X, et comment les deux corps d'Elon Musk entraient, dans le cas du Brésil, en duel, on pourrait dire. Ils étaient en train de se tuer l'un l'autre, et si on reprend l'histoire de cette interdiction, c'est justement parce que X a été interdit, donc Musk a voulu montrer ses muscles face à la justice brésilienne, et c'est à partir du moment où on s'est attaqué à Starlink qu'il a commencé à être plus docile, on va dire, avec le pouvoir brésilien, et qu'il a finalement accepté de payer les amendes, de nommer une certaine personne, voilà, c'est un peu toute l'histoire de cette interdiction, mais de nommer un responsable de X au Brésil, etc., etc. Donc c'était vraiment de réussir à comprendre comment l'enjeu de la régulation des big tech est central, et surtout, c'est ce qu'on a pu voir, et donc l'article a été fini en octobre, donc avant qu'on voit le ralliement stupéfiant. Certains ont parlé d'opportunisme, d'autres se sont dit que c'était déjà préparé, le ralliement de tous les patrons de la big tech au pouvoir de Donald Trump. Et ce ralliement ne peut être que compris si on analyse comment Joe Biden, avant l'élection de Donald Trump, a essayé de mettre en place une vraie régulation des big tech aux États-Unis. Et cette régulation, avec l'élection de Donald Trump, a été écourtée. Et on voit aujourd'hui ce que certains qualifient soit de techno-césarisme, soit de techno-fascisme. Et l'enjeu de la régulation, on pourrait dire que dans le cas du Brésil, ça a été un cas d'école qu'il faudra sans doute réanalyser aujourd'hui de nouveau avec ce nouveau ralliement pour comprendre réellement les enseignements qu'il peut nous apporter.
Oui, c'est ce qui est passionnant dans ce papier, c'est son côté cas d'école pour penser la situation nouvelle. Alors je le disais dans ce numéro de Multitude, le numéro 97, il y a ce dossier, cette majeure consacrée à la frontière, de la frontière à la lisière. C'est le résultat d'un programme de recherche important, c'est le résultat aussi de situations historiques récentes dans lesquelles vous vous êtes trouvé. Le point de départ, dites-vous, c'est cette crise de l'accueil avec les réfugiés syriens qui arrivent au milieu des années 2010 en Europe, mais c'est aussi la crise du Covid, suivie de la guerre en Ukraine, trois manières d'appréhender la frontière et de tenter de penser la frontière comme une lisière, dites-vous, c'est-à-dire au fond tout sauf une ligne. Ce que des travaux de sciences sociales récents nous ont bien montré, je pense au livre de Stéphane Le Courant sur la manière dont la frontière demeure présente pour les gens qui n'ont pas de papier dans les métropoles, ou la façon dont la frontière s'est épaissie dans les Alpes, entre la France et l'Italie, et je pense au très beau livre de Didier Fassin et Anne-Claire Defossé.
Oui, donc cette majeure, elle a été coordonnée avec Guillaume Wavelet. Il est important de dire d'où Guillaume parle. Guillaume est psychologue clinicien à la PHP. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'était de voir comment on peut penser un cadre conceptuel à travers de la frontière qui permet d'aller de l'intra-psychique à un cadre beaucoup plus large, qui est celui de la géopolitique. Donc, pour faire ce dossier, nous, on est parti de notre expérience personnelle en tant que militant, en travaillant avec des associations pour l'accueil de réfugiés syriens, de réfugiés africains. Et on a constaté que la frontière a changé totalement notre perception, a changé de réalité, on pourrait dire, avec les guerres, où on a vu que non seulement elle pouvait être ce qui empêche l'arrivée des réfugiés, qui met en place une politique mortifère. Ce qui se passe en Méditerranée est un drame mis en place politiquement, mais que d'un autre côté, la frontière avait une sorte de double côté qui serait celle de protéger. Et on l'a vu avec justement l'accueil des réfugiés ukrainiens, qui a certes été polémique parce qu'on s'était dit pourquoi on accueille bien les Ukrainiens et qu'on n'a pas accueilli tous les autres personnes. Et donc c'est dans cette tension qu'on a essayé d'expliquer dans un cadre transdisciplinaire qu'on s'est posé. Avec l'idée, et je pense que ça rejoint ce que l'élection de Donald Trump nous montre, c'est que la frontière est un lieu d'intensification des rapports politiques et géopolitiques, mais c'est aussi un espace de vie. Et c'est pour ça que nous, on propose le terme de lisière, parce que là, quand on parle de frontière, on imagine une ligne, il suffirait de traverser cette ligne pour arriver dans un autre pays. Mais en fait, non, c'est ce que vous dites. Si on est ivoirien, la frontière commence à Abidjan quand on demande un visa et qu'il est refusé. Quand on est une personne sans papier, la frontière, c'est chaque contrôle de police dans une métropole européenne. Donc c'est cette tension entre la frontière qui peut protéger et la frontière qui exclut, cette frontière qui intensifie les rapports politiques et qui aujourd'hui se trouve, on pourrait dire, arsenalisée avec Donald Trump dans la guerre économique. En fait, ces dernières années, il y a eu un mythe qui voulait que l'histoire était finie, que le capitalisme et le monde et la société libérale allaient pouvoir un peu réguler le monde. Et en entendant ces discours, on voyait certes que les capitaux circulaient très facilement, mais que les êtres humains étaient dans une dynamique assez asymétrique où certains avaient le droit de passer un peu partout. C'est ce qu'on met en scène aussi dans cette introduction, où nous, on peut être n'importe où avec un passeport fort européen, mais que ce n'est pas le cas de tout le monde.
Et donc, on va devoir en rester là, mais ça va nous donner envie d'ouvrir le numéro de Multitude. Merci beaucoup, Alain Deneville.
Merci beaucoup pour cette invitation.
Pour cette présentation, donc numéro 90. On trouve la référence sur la page de l'émission ainsi que celle du livre de Franck Frégosi dont nous parlions aujourd'hui. Une page où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Séam Boutata. À la technique ce soir, Sofiane Aktib. À la réalisation, Jean-Christophe Francis.